Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, jeudi prochain, 21 novembre, la Sainte Église célébrera la fête de la présentation de la très sainte Vierge Marie au Temple de Jérusalem. Pour en marquer le souvenir, l'empereur Justinien Ier, empereur à Constantinople au VIe siècle, avait fait élever une église grandiose sur l'esplanade du temple à l'endroit de la présentation. Il faut croire que le démon ne pouvait le supporter, puisque l'islam détruisit l'église et la remplaça par la grande mosquée El-Aqsa, dont le dôme domine maintenant Jérusalem. Il fallut cependant attendre le 8e siècle pour que la présentation de Notre-Dame entre dans la liturgie en Orient. Elle fit son entrée en Occident au XIVe siècle avec le pape Grégoire XI, qui, avant d'être pape, avait été prieur ici même à La Haye aux Bonshommes. C'est lui d'ailleurs qui commanda les fresques de cette église en reconnaissance des années passées en ces lieux. Il introduisit la fête de la présentation dans sa chapelle papale à Avignon. Celui qui régnait alors sur la France, le roi Charles V, introduisit aussitôt cette fête dans la chapelle de son palais. Et par lettre du 10 novembre 1374, ordonna qu'elle fût célébrée dans tout le royaume. Citons un extrait de cette lettre pour entendre comment parle un prince chrétien conscient de ses devoirs de chef d'État. Nous n'y sommes plus habitués. Je vous cite. Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs, à nos bien-aimés, salut en celui qui ne cesse point d'honorer sa mère sur la terre. Entre les autres objets de notre sollicitude, soucis journaliers et diligentes méditations, le premier qui occupe à bon droit nos pensées est que la bienheureuse Vierge et très sainte impératrice soit honorée par nous d'un très grand amour et louée comme il convient à la vénération qui lui est due. Car c'est un devoir de lui rendre gloire. Et nous qui élevons vers elle en haut les yeux de notre âme, nous savons quelle protection incomparable elle est pour tous, quelle puissante médiatrice auprès de son béni Fils pour ceux qui l'honorent avec un cœur pur. Et c'est pourquoi, voulant exciter notre peuple fidèle à solenniser la dite fête, comme nous-mêmes nous proposons de le faire, Dieu aidant, chacune des années de notre vie, nous en adressons l'office à votre dévotion, à cette fin d'augmenter vos joies. Fin de citation. Quand les chefs d'État remplissent leurs devoirs envers Dieu, ils sont bénis du ciel avec leur pays. Peu après cet acte, Charles V remporta une victoire miraculeuse sur les envahisseurs anglais. Il fallut cependant attendre le pape Sixte Quint pour que la fête de la présentation de la Sainte Vierge soit étendue à l'Église universelle en 1585. Par cette fête de la présentation, l'Église célèbre un événement particulier, à savoir que la très Sainte Vierge Marie, à l'âge de 3 ans, a été présentée, offerte, consacrée à Dieu dans le temple de Jérusalem par ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne, qui en avaient fait le vœu s'ils avaient un enfant, car ils avaient été longtemps stériles. Normalement, c'était seulement les enfants mâles, premiers-nés, qui étaient portés au temple 40 jours après leur naissance, afin d'être présentés au Seigneur et rachetés, parce qu'ils appartenaient de droit à Yahvé, depuis la nuit où l'ange exterminateur avait fait mourir les premiers-nés des Égyptiens avant le départ d'Égypte des Hébreux. Ainsi, l'enfant Jésus sera présenté au temple par Saint Joseph et la Vierge Marie, conformément à la loi de Moïse. Nous le célébrons tous les 2 février. Ce n'est donc pas pour observer une loi de Dieu que Saint Joachim et Sainte Anne se rendirent au temple pour présenter leur enfant à Yahvé, mais ce fut pour accomplir un vœu personnel qu'ils avaient fait. Demandons-nous maintenant dans quelle disposition la Vierge Marie vécut cet événement. Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit que la Vierge Marie a eu miraculeusement l'usage de la raison dès le premier instant de sa conception. C'est ce qu'affirme Saint Vincent Ferrier, Saint François de Sales, Saint Alphonse de Ligorie et la plupart des théologiens. Cet usage anticipé de la raison permit à Notre-Dame, dès le début de son existence, de consentir avec amour à toutes les grâces dont le bon Dieu inondait son âme pour la préparer à devenir la mère de son Fils, ce qu'elle ignora jusqu'à l'Annonciation. Mais à l'aube de sa vie, elle s'offrait déjà à toutes les volontés de Dieu, comme le fera plus tard notre Seigneur qui, nous dit saint Paul, en entrant dans ce monde, dit à son Père céleste, « Me voici, je viens, ô Père, pour faire votre volonté. » La Vierge Marie fut dans les mêmes dispositions au début de son existence, offrant toute sa vie future au bon Dieu. En Notre-Dame, la volonté de Dieu ne rencontra jamais d'obstacle. Chaque grâce à laquelle elle correspondait totalement par amour la disposait à recevoir une nouvelle grâce. Et il en fut ainsi pendant toute la vie terrestre de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. Déjà au moment de sa conception immaculée, la grâce en Notre-Dame était supérieure à ce que sera la grâce de tous les anges et tous les élus à la fin du monde. Parce qu'il n'en fallait pas moins pour qu'elle puisse abriter en son sein celui dont la sainteté était infinie. Alors, quel sommet la grâce dut-elle atteindre en l'âme de Notre-Dame après toute une vie de correspondance amoureuse de tous les instants à la grâce et à la volonté de Dieu. Cette charité qui brûlait dans le cœur de Notre-Dame devait d'ailleurs la conduire à consacrer à Dieu toute sa puissance d'aimer par le vœu de virginité. Au jour de l'Annonciation, dit saint Augustin, Marie a répondu à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» Elle n'aurait pas fait cette réponse, dit saint Augustin, si elle ne s'était pas engagée par un vœu de rester vierge. Il faut d'ailleurs savoir que c'est quelque chose qui ne se faisait pas en Israël. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer que sous le régime de l'Ancien Testament, personne n'était dispensé du devoir d'avoir des enfants. C'est en ayant des enfants que l'on multipliait le peuple élu, le seul sur terre qui rendait un vrai culte au vrai Dieu. Ne pas se soucier de laisser une descendance était alors inconcevable. C'est pour cela que la Vierge Marie n'avait pas fait le vœu de virginité de manière absolue, continue saint Thomas. Elle ne l'avait fait qu'à condition que Dieu l'accepte. Mais lorsqu'ayant pris un époux, comme l'exigeaient les mœurs du temps, celui-ci accepta le mariage en demeurant vierge comme son épouse, dès lors, dit saint Thomas, tous deux firent ensemble ce vœu de manière absolue. Ce fut néanmoins un vrai mariage, puisque la Vierge Marie et saint Joseph s'échangèrent un droit mutuel sur leur corps. Ce n'était pas pour des actes en vue de la génération, mais pour se garder mutuellement leur virginité. Et ce mariage virginal fut le plus fécond de toute l'histoire de l'humanité, puisque l'enfant conçu dans ce mariage, dans ce foyer, conçu du Saint-Esprit, fut le sauveur du monde. On peut se demander si Notre-Dame avait voué la virginité dès les premiers instants de son existence, ou si elle avait eu miraculeusement l'usage de la raison. Ou bien si elle avait prononcé ce vœu seulement lors de sa présentation au temple. En tout cas, même si elle avait fait son vœu bien avant, la Vierge Marie l'a au moins certainement renouvelé en ce jour. C'est pourquoi la coutume s'est introduite en de nombreux endroits dans l'Église, dans des congrégations, voilà, quand ce 21 novembre, clercs et religieux renouvellent leurs engagements sacrés. Quelles leçons pouvons-nous maintenant tirer pour notre vie chrétienne? Si tous ne sont pas appelés à imiter Notre-Dame dans sa virginité, dit saint Bernard, tous le doivent dans son humilité, et le peuvent. Et spécialement cette humilité radicale qui cherche à vivre constamment dans la dépendance de la volonté de Dieu. Humilité radicale dont tous les actes se ramènent à ce mot fiat prononcé par la Vierge Marie au jour de l'Annonciation et qui résume toute sa vie. Il faut comprendre que chaque instant de nos journées vient à nous chargé d'une volonté de Dieu à notre égard. Cette volonté est l'expression de son amour et elle n'est que pour notre bien, quels que soient les événements qui arrivent, événements favorables, heureux ou événements fâcheux, tous voulus ou permis par la providence infaillible pour nous faire avancer vers le ciel. Le moment présent, écrit un auteur, est toujours plein de trésors infinis. La volonté de Dieu s'y montre comme une mer immense que notre cœur ne peut épuiser. Seule cette volonté de Dieu fera notre plénitude, une plénitude qui ne laissera aucun vide dans notre âme, et c'est là que se trouve le vrai bonheur. Bien sûr, parallèlement aux faits extérieurs de nos journées, il y a la série des grâces actuelles, des secours surnaturels que le bon Dieu envoie à notre âme pour nous éclairer sur sa volonté du moment présent et pour nous permettre d'y correspondre. L'histoire de notre âme tout au long de notre vie, celle que nous écrivons chaque jour sur ce livre qui un jour sera ouvert à la fin de notre existence, eh bien l'histoire de notre âme, c'est la suite de ces grâces actuelles, de ces secours surnaturels que nous aurons acceptés et qui auront porté du fruit, et celles aussi que nous aurons négligées par manque de foi ou parce que nous aurons manqué de générosité pour nous renoncer et préférer la volonté de Dieu à la nôtre. Heureusement, nous avons la possibilité de réparer maintenant, par une plus grande fidélité, nos infidélités d'hier. Deux remarques importantes pour terminer. Parfois, nous sommes inquiets pour l'avenir. Nous ne savons pas comment les choses vont tourner. Nous sommes comme dans le brouillard. Eh bien, justement, lorsqu'on marche dans le brouillard, on voit toujours assez pour mettre un pied devant l'autre. Alors, c'est la fidélité au devoir du moment présent qui prépare l'avenir et fera que toutes choses finiront par tourner à notre bien. Comme nous le certifie saint Paul, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui font sa volonté. Enfin, quand l'heure de notre mort approchera, et il faut y penser en ce mois de novembre, c'est encore à cette volonté de Dieu de l'instant présent qu'il faudra s'accrocher. Et ainsi nous serons soutenus par la grâce, instant après instant, comme en a témoigné un pieux laïc mort d'un cancer. Je vous cite un autre témoignage d'une mère de famille, mère de 5 enfants, et décédée d'un cancer à l'âge de 46 ans. Elle nous avait écrit ces lignes magnifiques. Quand la souffrance déborde de tous les côtés, on est réfugié étroitement et très misérablement dans une volonté entêtée qui répète à Dieu inlassablement « J'ai confiance quand même ». Et encore, c'est si étroit que souvent il n'y a que le mouvement de volonté et pas de place pour les sentiments, encore moins pour des raisonnements. Il me semble que c'est comme cela qu'il faudra entrer dans la mort quand elle arrivera. Quand vous priez pour moi, la grâce qu'il vous faut mendier, c'est que je dise oui, fiat, et qu'il me soutienne pour chaque oui, sinon je coule. Deux mots à retenir en conclusion, foi et confiance. Foi pour réagir surnaturellement dans les moindres événements de notre vie. Confiance pour nous laisser conduire par la volonté de Dieu au cours de ces événements. Demandons cette grâce à la Vierge Marie pour marcher sur le chemin qui l'a conduite au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.